Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europe 1.
Europe 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Rémi Botsaron.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Carnets du Monde, l'émission qui vous propose toutes les semaines d'écouter le monde changer. Et en l'occurrence, c'est d'abord l'Europe qui change. Il y a eu le Brexit, ça s'est fait. Est-ce qu'il y aura un jour le Pole Exit? Comprenez, le départ de la Pologne. La question se pose, semble se poser, puisque le pouvoir polonais se détache des valeurs promues par l'Union européenne. Il s'en prend aujourd'hui à son système judiciaire et plus précisément à ses juges.
Les médias pro-gouvernementaux disent que je suis membre d'une caste des juges, que je suis corrompu. Alors forcément, ça joue sur le comportement des gens envers moi. Dans la rue, je me fais insulter.
Notre correspondante nous fera entendre ces magistrats entrer en résistance. Mais le monde qui change, c'est également le climat qui change, avec des conséquences dramatiques, notamment en Afrique. Nous serons au Kenya, victimes de la pire invasion de criquets depuis 70 ans. Ils sont des milliards. Ils dévorent les cultures et ils mettent des millions d'habitants en danger. Le monde qui change, ce sont aussi des valeurs traditionnelles dont on ne veut plus parce qu'elles font souffrir, parce qu'elles tuent parfois. En Argentine, ce sont les valeurs associées au rugby. Après le meurtre d'un jeune homme par des rugbyman, le pays est en émoi et dénonce le machisme, le virilisme, la violence qui ronge ce sport réservé à l'homme blanc, hétérosexuel et riche. Et puis, tout de même, il y a l'amour. Le monde change, mais l'amour demeure, que l'on essaye d'exprimer chacun à sa façon. On peut le faire le jour de la Saint-Valentin, c'était vendredi, mais on peut surtout le faire quand on veut, comme on veut. Dans le sud de l'Italie, ça se fait avec des graffitis, une tradition séculaire que vous découvrirez à la fin de ces carnets.
Les carnets du monde sur Europe 1, Rémi Botsaron.
Il s'appelle Droit et Justice. Vous connaissez ce nom désormais, c'est celui du parti conservateur et nationaliste au pouvoir en Pologne. Droit et Justice, deux mots qui résonnent étrangement depuis plusieurs mois, depuis que les dirigeants polonais ont engagé des réformes judiciaires qui, selon l'Union européenne, menacent l'indépendance de la justice. Dernière en date, celle que le président a promulguée la semaine dernière. L'opposition l'appelle la loi muselière. Elle permettrait tout simplement de révoquer les juges qui critiquent les réformes de la justice. Or, des juges qui critiquent, il y en a malgré les menaces, malgré les intimidations. Notre correspondante Fanny Boucaud est allée à leur rencontre.
Łódź, troisième ville du pays en plein cœur de la Pologne. C'est dans un restaurant discret qu'Eva et Rafał Maciejewski me donnent rendez-vous. Ils sont juges, tous les deux depuis près de 20 ans, et font l'objet de procédures disciplinaires. Il y a 2 ans, le président du tribunal où travaille le couple a été révoqué du jour au lendemain par le ministre de la Justice et remplacé par un juge sans expérience, explique Rafał.
J'ai écrit un article sur notre site internet où j'ai montré que le nouveau président de notre tribunal ne fait que désorganiser notre travail. Il a confié beaucoup d'affaires à des personnes sans expérience, sans compétences. Et suite à cet article, je suis sous le coup d'une procédure disciplinaire parce que je me suis exprimé publiquement sans avoir demandé l'accord du président du tribunal.
En vertu de la nouvelle loi promulguée la semaine dernière, Rafał pourrait perdre son travail pour ses écrits. Au tribunal, la rupture est actée entre ses collègues et le nouveau président.
Nous avons, en tant que juge, des assemblées où nous adoptons des résolutions. Plusieurs fois, nous avons exprimé nos critiques envers la gestion du travail du nouveau président. Mais il a toujours dit qu'il ne tiendra pas compte de l'opinion des juges.
Depuis son arrivée au pouvoir, fin 2015, le parti PiS a progressivement pris le contrôle des institutions judiciaires. Tribunal constitutionnel, présidence des tribunaux, conseil de la magistrature et chambre disciplinaire. Eva Maciejewska a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si ces réformes étaient contraires ou non au droit communautaire. Et pour cela, elle risque d'être suspendue, voire révoquée.
On n'a aucun doute que cette réforme du système judiciaire en Pologne, ce n'était pas un moyen de punir des moutons noirs ou des juges qui se comportent mal ou ne travaillent pas bien. Mais en vérité, elle sert à dresser, à domestiquer les juges qui ne sont pas encore soumis au pouvoir actuel.
Eva et Rafał sont conscients des risques qu'ils encourent, mais ils estiment avoir déjà été trop loin pour abandonner. Un autre juge a été poursuivi pour les mêmes raisons qu'Eva. Igor Tuleya est magistrat depuis plus de 24 ans. 6 procédures disciplinaires ont été lancées contre lui. Il me reçoit dans sa cour pénale au tribunal de Varsovie.
Igor Tuleya.
Il est l'un des juges les plus connus de Pologne et fait l'objet d'une campagne de haine.
Les médias pro-gouvernementaux disent que je suis membre d'une caste des juges, que je suis corrompu. Alors forcément, ça joue sur le comportement des gens envers moi. Dans la rue, je me fais insulter. Et j'ai déjà reçu 2 colis au tribunal qu'on a dû évacuer. Et c'était de fausses alertes à l'anthrax. Quelqu'un aussi a sali la porte de mon appartement avec une crotte de chien. Alors le propriétaire a eu peur et a résilié mon contrat. Et je me suis retrouvé sans toit du jour au lendemain.
Entre les procédures disciplinaires et cette campagne de haine contre lui, Igor Tuleya semble exténué, le visage fatigué.
Bien sûr que c'est très lourd pour moi. Mais je dois continuer car les juges, nous sommes la dernière barrière, le dernier bastion qui défend la démocratie. Si nous sommes envahis, alors cela va avoir un impact sur tous les domaines de la vie. L'éducation, la culture, les médias. Le pouvoir veut montrer sa force, faire passer le message que si un juge ne fait pas ce qu'il veut, alors il aura des sanctions disciplinaires.
Même s'il est épuisé, Igor Tuleya, tout comme les autres juges que j'ai rencontrés, ne compte pas se taire. S'attaquer aux juges et magistrats les plus connus, cela porte un nom. C'est l'effet de gel, comme l'explique Marcin Maciak, avocat et professeur de droit à l'université de Varsovie.
Vous pouvez influencer les juges tout simplement en attaquant un de leurs confrères connus, puissants. Ainsi, les autres juges vont y réfléchir à deux fois avant de critiquer eux aussi. Car bien sûr, ce sont aussi des gens normaux. Ils ont des enfants, des prêts bancaires, ils doivent vivre. Cet effet de gel est très dangereux car on ne peut pas le voir, le mesurer. Dans des affaires impliquant des politiciens, les juges devront statuer. Mais est-ce qu'ils le feront de manière impartiale, en fonction de la loi ou sous la pression politique ?
Autre juge très connu, Paweł Juszczyszyn, est pour l'instant le seul magistrat à avoir été condamné par la chambre disciplinaire. Il a été suspendu avec une retenue sur salaire de 40% pour avoir questionné l'indépendance de ses confrères. Or, c'est un droit des magistrats, ce qui gêne profondément le PiS, qui dirige la Pologne aujourd'hui. Radosław Fogiel est député et porte-parole de la majorité.
En Pologne, la loi suprême est la constitution polonaise. Celle-ci dit que le droit de nommer des juges incombe seulement au président polonais. Cela ne peut être remis en cause, point final. Donc, quand un juge remet en cause la légitimité d'un de ses confrères, eh bien cela enfreint la Constitution et il doit y avoir des procédures disciplinaires. Le système judiciaire de chaque État membre est une compétence propre à chaque pays. Nous n'acceptons pas qu'on impose quoi que ce soit à la Pologne.
Oui, comme la Constitution française, la Constitution polonaise prime sur le droit européen, sauf quand l'indépendance de la justice est menacée. C'est écrit dans la Charte des droits fondamentaux qui s'impose à la Pologne. L'indépendance et l'impartialité de la justice, c'est officiellement ce pourquoi le PiS a voulu faire ses réformes, pour stopper, selon lui, une caste des magistrats qui viendrait tout droit de la période communiste.
Le système judiciaire est resté le même depuis 1989. C'est pour cela qu'il est nécessaire de le réformer. Bien sûr, les juges qui ont exercé durant le communisme ne travaillent plus aujourd'hui. Mais ces gens ont élu leurs successeurs plus jeunes, les ont formés dans cette idéologie. C'est pour cela que tout ce système est paralysé.
En poursuivant ces réformes judiciaires, le parti PiS se met progressivement au banc de l'Union européenne. En référence au Brexit, certains observateurs, comme le défenseur des droits en Pologne, parlent même d'un Pol-exit légal. À Varsovie, Fanny Bouco, Europe 1.
Et Fanny Bouco est en ligne avec nous depuis la Pologne. Bonjour Fanny.
Bonjour Rémi.
Fanny, vous parlez d'un possible Polexit à la fin de votre reportage. Forcément, ça fait penser à ce que disait Nigel Farage, le leader du Brexit Party, sur notre antenne il y a 2 semaines. Mathieu Belliard lui demandait quel pays allait, selon lui, quitter l'Union européenne après le Royaume-Uni. Il avait donné 2 noms, l'Italie et la Pologne. Alors, est-ce que Farage disait vrai ?
Effectivement, certains membres de l'opposition en Pologne craignent que l'on se dirige vers un Polexit. Alors, il faut dire que le gouvernement polonais fait tout pour. Il poursuit ses réformes controversées et défie l'Union européenne. Et puis, si la Pologne ne veut pas retirer ses lois répressives, elle pourrait perdre les fonds européens. C'est une solution envisagée en ce moment, d'ailleurs, à Bruxelles et Strasbourg, que les pays qui ne respectent pas l'état de droit ne reçoivent plus d'argent. Or, depuis son adhésion en en 2004, la Pologne a touché plus de 170 milliards d'euros. C'est le plus grand bénéficiaire. Oui. Alors, certains observateurs, Rémi, pensent également que retirer les fonds européens à la Pologne servirait d'argument au pouvoir. En gros, vu que l'Europe ne donne plus d'argent, autant s'en aller.
Mais du coup, la question se pose, est-ce que la Pologne pourrait vraiment s'en sortir sans l'Union européenne ?
Ça risque d'être difficile, Rémi. D'abord parce que le pays bénéficie largement du marché unique. Il exporte énormément vers l'Allemagne. Et puis avant son entrée dans l'UE en 2004, la Pologne comptait 20% de chômeurs. L'économie sortait tout juste du système communiste. Et 16 ans plus tard, eh bien, la Pologne est en situation de plein emploi et connaît une croissance que beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest lui envient. La dimension géopolitique aussi, au regard de son histoire, la Pologne a toujours peur de la Russie. Certains Polonais pensent même que Vladimir Poutine pourrait avoir des vues sur le pays. Donc quitter l'Union européenne, c'est aussi s'isoler et être plus vulnérable. D'ailleurs, si bien pour ça que le gouvernement achète à tour de bras des avions, des hélicoptères américains pour se protéger.
Et les Polonais, alors, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Il paraît que 90% d'entre eux veulent rester dans l'Union européenne, selon un sondage. Et pourtant, ce sont eux aussi qui ont placé ce parti visiblement eurosceptique au pouvoir.
Oui, c'est vrai, mais il faut savoir d'abord que le parti PiS dirige le pays en ayant obtenu moins de 45% des voix aux législatives en octobre dernier. En fait, les différents partis pro-européens ont obtenu en cumulé davantage de voix. Même si les Polonais sont majoritairement pro-européens, ils se retrouvent sur un point, Rémi, très important avec le PiS, le patriotisme, la fierté d'être polonais, d'être indépendant. La Pologne a constamment été envahie ou sous domination d'une puissance étrangère, les nazis, puis l'URSS jusqu'en 89, pour ne citer que. Alors le fait que Bruxelles impose des règles à la Pologne, ça a du mal à passer. Ils ne vont pas nous dicter ici, en langue étrangère, comment nous devons conduire nos affaires. Les mots du président polonais Andrzej Duda, le mois dernier, trouvent un certain écho chez les Polonais.
Ouais, un sentiment complexe analysé chez les Polonais, mais vous êtes là pour ça. Merci Fanny, et à bientôt.
À bientôt Rémi, au revoir.
Dans un instant, nous partons au Kenya, un pays qui subit en ce moment l'une des pires invasions de criquets de son histoire. Une invasion d'une telle ampleur que l'économie du pays est menacée.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Rémi Botsaron cette semaine. On prend la direction du Kenya. Le Kenya confronté à la pire invasion de criquets depuis 70 ans, Rémi.
Et quand on parle d'invasion, il faut imaginer ce que ça représente. Ce sont des centaines de milliards de criquets qui ravagent la corne de l'Afrique depuis plus de 2 mois. Ils sont arrivés par la Somalie, ils se déplacent avec le vent, ils parcourent plus de 150 km par jour et partout, ils dévorent les cultures. La situation est hors de contrôle selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. C'est une crise alimentaire qui se profile désormais. Le reportage à Nairobi de Charlotte Simonard.
Ils sont silencieux, à peine perçoit-on le bruit de leurs ailes. Et pourtant, ils se déplacent par millions, peut-être par milliards, comme d'épais nuages sombres dans le ciel du nord du Kenya. Ces images d'amateurs viennent du comté d'Isiolo, dans le nord du pays. On y voit un arbre entièrement recouvert de criquets. Quelques instants plus tard, il n'en reste pas une feuille, toute dévorée par ces ravageurs, particulièrement voraces. Les populations locales sont impuissantes. Pour sauver leur culture, les habitants crient, tapent des mains, font ronronner le moteur des voitures, des moyens modestes face à une crise d'ampleur. Le Kenya n'avait pas connu pareille invasion depuis 75 ans. En janvier dernier, le gouvernement kényan lançait son plan d'urgence, 300 000 dollars y sont consacrés.
Le gouvernement a immédiatement réagi en mobilisant des agents techniques sur le terrain pour commencer les opérations de contrôle et former les populations locales pour qu'elles-mêmes par la suite soutiennent les opérations au sol et dans les airs.
Mais la crise perdure et les criquets se multiplient toujours plus vite. Une femelle pond jusqu'à 300 œufs durant les 3 mois de sa courte vie. À Nairobi, ce matin-là, John Mugo, agriculteur, est venu vendre sa production de fruits et légumes qu'il cultive dans une région jusqu'ici épargnée. Mais il se rend régulièrement dans les zones ravagées.
C'est de pire en pire. Lorsque vous conduisez, vous ne voyez plus rien. Quand les criquets envahissent les cultures, ils mangent toutes les feuilles et laissent la plante sans chlorophylle. Et elle sèche. C'est très dur car les agriculteurs n'ont plus de revenus. C'est un désastre.
À ce jour, 14 comtés sont en train d'être dévorés par les criquets, notamment dans la vallée du Rift, région agricole du pays, grenier de l'Afrique de l'Est. Georges Otieno, entomologiste kényan, spécialiste des criquets pèlerins.
Après avoir dévoré la végétation en Somalie, les criquets ont cherché un autre endroit pour se nourrir. Le Kenya s'est présenté comme une alternative idéale. Leur venue a été favorisée également par le vent. Ce matin, ils ont été aperçus à Kericho, dans la vallée du Rift, ce qui est inquiétant car Kericho est une région assez fraîche. C'est là que l'on produit le thé. Si ces insectes arrivent à survivre à Kericho, alors ils sont capables d'aller partout dans le pays.
Dans cette grande surface dédiée uniquement aux fruits et légumes, les rayons sont encore pleins, mais l'inquiétude gagne le manager.
Pour l'instant, nous n'avons pas encore de problème d'approvisionnement. Mais les agriculteurs là-bas sont inquiets de ne plus pouvoir nous fournir leur production, comme les citrons, les mangues ou les papayes.
Il faut dire que leur multiplication est impressionnante. Le nombre de criquets se multiplie par 20 tous les 3 mois. Pour l'entomologiste Georges Otieno, cette crise aurait pu être évitée.
Idéalement, ces insectes se reproduisent dans un sol sablonneux dans lequel les femelles peuvent facilement faire pénétrer leur abdomen et y déposer leurs œufs. Et les fortes températures sont favorables pour l'éclosion des œufs. Ce qui explique que nous voyons arriver tant d'essaims venus de Somalie au Kenya. À cause de la situation politique dans ce pays, il n'y a aucun contrôle. Si on avait correctement géré leur prolifération en Somalie, on n'en serait pas là.
Aujourd'hui, il y a urgence, car la crise alimentaire que craignent les Nations Unies était déjà là avant les criquets pèlerins. Jean-Baptiste Héral est le directeur pour la Corne de l'Afrique chez ACTED, une ONG qui répond aux besoins humanitaires des populations.
Aujourd'hui déjà, on est dans des situations de crise alimentaire, même sans la crise des criquets pèlerins. À cause des sécheresses et des inondations, en 2019, l'invasion donc de criquets pèlerins, ça pourrait clairement aggraver la faim et la malnutrition dans une région où près de 25 millions de personnes sont déjà en situation de grave insécurité alimentaire.
D'ici 3 à 4 semaines, une nouvelle vague de criquets est attendue au Kenya depuis la Somalie, car là-bas la situation n'est toujours pas sous contrôle et les femelles continuent de pondre leurs œufs. Pour Jean-Baptiste Héral, la prochaine saison agricole est menacée.
Les criquets sont donc venus au Kenya en fin décembre. Et fin décembre, c'était donc le moment des récoltes au Kenya. Donc, on a eu de la chance sur cette récolte-là. Elle n'a pas été trop affectée. Mais vu que là, nous sommes entre deux saisons, la saison des pluies courtes qui se termine en décembre et la saison des pluies longues qui commence en mars-avril, c'est la saison principale en termes de récolte. C'est cette saison qui est extrêmement importante pour la majorité des fermiers qui est à risque.
Plus globalement, les économistes s'attendent à une hausse des denrées alimentaires et particulièrement de la farine de maïs, l'aliment de base pour la majorité de la population. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Charlotte Simonard, que l'on retrouve en ligne depuis le Kenya. Bonjour Charlotte.
Bonjour Rémi.
Alors, vous dites dans votre reportage que le gouvernement kényan tente d'agir contre cette invasion de criquets, mais comment peut-il lutter contre une invasion d'une telle ampleur ?
Effectivement, la situation paraît désespérée et pourtant, il y a des moyens assez simples en fait pour les faire disparaître. Mais il faut s'attaquer aux criquets avant qu'ils atteignent le stade ailé, c'est-à-dire avant qu'ils soient capables de voler. Donc, identifier les zones où les femelles ont pondu, attendre 4 à 5 semaines pour être sûr que tous les œufs éclosent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut asperger de pesticides et tuer ainsi tous les petits criquets. Voilà, c'est ce que fait le gouvernement kényan avec ses partenaires, mais c'est vrai que l'ampleur est telle que ce n'est pas suffisant puisque tout va très très vite et une fois que les criquets volent, eh bien c'est bien plus compliqué de les contrôler et surtout plus cher.
Ouais, un phénomène redoutable évidemment, mais alors comment l'expliquer ? Est-ce que c'est là encore une conséquence du réchauffement climatique ?
Alors oui, tout à fait. Ce qui favorise la prolifération des criquets, c'est l'humidité combinée à la chaleur et c'est exactement ce que l'on vit ici dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est en ce moment. 2019 a été l'une des années les plus humides de la région et ça continue. Là, on est en janvier, habituellement saison sèche, la plus sèche de l'année, avec des températures très élevées et il pleut encore ce matin et la nuit dernière à Nairobi. Alors pour tout vous dire, ça fait 5 ans que j'habite au Kenya et jamais je n'avais connu un mois de janvier aussi pluvieux. Donc ça s'explique par le fait que l'océan Indien enregistre une élévation de sa température à cause du réchauffement climatique, mais aussi c'est lié ces dernières semaines aux incendies en Australie qui réchauffe l'océan. Alors, il s'en dégage de la vapeur d'eau qui se déverse sur l'Afrique de l'Est. Voilà donc le cocktail idéal pour la prolifération des criquets.
Un incroyable enchaînement de phénomènes. Et aujourd'hui, Cette invasion menace l'économie du Kenya ?
Oui, sur plusieurs aspects. Alors d'abord, une saison agricole menacée, vous l'avez compris dans le reportage. Donc l'agriculture, c'est le pilier de l'économie kenyane. Elle représente un tiers du PIB. Alors il y a les cultures de maïs qui sont menacées, très consommées par la population, car la farine de maïs, c'est l'aliment de base pour la plupart des foyers. Et puis il y a les cultures de thé aussi qui sont menacées. C'est une culture vouée à l'exportation. Donc les pertes pour le pays peuvent être très importantes, sans parler de l'inflation que tout cela peut entraîner. Et puis il y a aussi les coûts liés aux opérations de contrôle des criquets. Alors le gouvernement kényan a débloqué 300 000 dollars pour acheter des pesticides, mobiliser des équipes, des avions, du matériel. Il va devoir chercher une aide financière ailleurs, hein, puisque la crise n'est pas finie. Or la dette du pays est déjà colossale et des économistes parlent d'un risque systémique. Les Nations Unies de leur côté estiment à 76 millions de dollars le coût d'un plan de lutte globale sur l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique pour venir à bout de ces criquets.
Et il y a urgence, donc on l'a compris. Merci Charlotte pour cet éclairage et à bientôt.
À bientôt.
À suivre dans les carnets du monde du cinéma. Margot Barallon viendra nous conseiller un film espagnol, un film qui parle d'une période qu'on connaît finalement assez mal en France, 1936, l'avènement de Franco.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h25, Rémi Botsaron, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Margot Barallon.
Et nous allons donc parler d'un film espagnol avec vous Margot aujourd'hui. Bonjour Margot.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Alors ce film s'appelle « Lettre à Franco ».
Et comme le titre le laisse deviner, on va plonger dans les années sombres de l'histoire de l'Espagne. En 1936 exactement, la guerre civile fait rage. D'un côté, les partisans de la République, de l'autre, une junte militaire emmenée donc par le général Franco. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît.
En effet.
Mais ce qu'on connaît moins, c'est celle de Miguel de Unamuno, un écrivain, poète très célèbre à l'époque en Espagne, qui va soutenir le soulèvement des militaires franquistes au début, avant de s'y opposer. C'est un épisode qui a marqué l'histoire espagnole parce qu'Unamuno va progressivement changer de regard, finir par dénoncer la dictature dans un discours devant toute une assemblée franquiste.
Mais donc, dans un premier temps, il a tout de même soutenu Franco. Comment un intellectuel peut-il soutenir des fascistes ?
Eh bien justement, dans un premier temps, Miguel de Unamuno ne saisit pas que ce sont des fascistes. Au départ, comme il l'explique à un journaliste au téléphone, il voit surtout un moyen d'en finir avec une république qui n'a pas tenu ses promesses.
Quand on a finalement réussi à se débarrasser du roi, quand la république a enfin été instaurée, ça n'a amené ni l'ordre, ni la paix, ni le pain, rien.
Non,
non, absolument pas. Je n'ai pas trahi la République, c'est la République qui m'a trahi. Et paradoxalement, je l'aime toujours. Mais c'est nécessaire pour rétablir l'ordre.
Ah oui, on imagine qu'il va vite se rendre compte qu'il y a un malentendu avec Franco.
Oui, alors déjà parce que des amis proches d'Unamuno sont arrêtés du jour au lendemain, mais aussi parce que lorsque les militaires le nomment recteur de l'université de Salamanque, cela va avec d'autres attributions.
C'est quoi ? Ce sont les rapports. Quel rapport ? On ne vous a rien dit ?
Non.
En tant que recteur, vous êtes le président de la commission d'épuration régionale. C'est stupide. Je ne suis ni juge ni procureur. Je vais épurer qui ?
Vous ne savez pas non plus pour le manifeste ? Il faudrait quelques mots pour soutenir le soulèvement.
La propagande, c'est pour les militaires. Nous, c'est l'enseignement.
Alors ça devrait quand même lui mettre la puce à l'oreille, ces histoires d'épuration et de propagande. Mais à ce moment-là, Unamuno pense encore qu'on peut être un intellectuel sans tenir compte du contexte social et politique de l'époque. Et en fait, c'est ça le véritable propos du film, montrer qu'il existe un lien étroit entre l'art et la politique.
Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les écrivains jouent forcément un rôle politique ?
Exactement. C'est ce que montre le réalisateur Alejandro Amenábar. L'intellectuel a une responsabilité. Unamuno va d'abord essayer de s'y soustraire. Le fameux manifeste qu'on lui demande dans l'extrait, il le laisse à d'autres, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que c'est mal écrit. Et là, le grand poète qui ne supporte pas qu'on massacre l'espagnol va l'amender, le corriger, l'améliorer. Et les fascistes se serviront ensuite de ses propres mots pour leur propagande. Ça va être le grand regret de sa vie. La thèse du film, c'est que l'art pour l'art, ça n'existe pas. L'art est forcément politique.
Et c'est donc valable logiquement pour le cinéma aussi.
Bien sûr, et Amenábar ne s'en cache pas, il a voulu faire un film engagé. D'ailleurs, le titre original de Lettre à Franco, qui a été horriblement mal traduit, c'est « Tant que durera la guerre ». C'est ce qu'il était écrit au départ sur le document qui a donné les pleins pouvoirs à Franco. Il était censé ne les garder que par temps de guerre. Mais c'est aussi un avertissement pour le spectateur. Amenabar considère qu'on est en temps de guerre aujourd'hui avec la résurgence des mouvements nationalistes en Europe. C'est d'ailleurs souvent le principe des films historiques. On montre le passé, mais en réalité, on parle du présent.
Mais alors, historiquement, est-ce que tout est vrai dans Lettres à Franco ?
Alors, Amenabar a vraiment essayé d'être le plus fidèle possible à la réalité. Il a travaillé avec un consultant historique, un conseiller militaire, avec les descendants de Miguel de Unamuno aussi. Mais le plus difficile, finalement, ça a été ce fameux discours de l'écrivain pendant lequel il s'oppose aux fascistes. Discours resté célèbre, notamment pour une phrase.
Venceréis, pero no convenceréis, he dicho.
Vous vaincrez, mais ne convaincrez jamais. Alors cette phrase, tout le monde s'accorde pour dire qu'il l'a prononcée, mais il n'existe aucun enregistrement de l'époque, aucune transcription officielle. Il a donc fallu composer avec différentes versions, recueillir des témoignages. Ouais. Ça n'a pas été simple, mais la reconstitution qui est un peu le climax du film, elle est vraiment impressionnante.
Et ça permet donc de plonger dans une époque qu'on connaît finalement assez mal en France.
Oui, à laquelle le cinéma ne s'est pas beaucoup intéressé. Je vous ai beaucoup parlé de Miguel de Unamuno, mais le personnage de Franco est aussi passionnant dans le film. Amenabar le montre comme un homme très lambda, en fait, pas très charismatique, et même pas tout à fait certain au départ de vouloir le pouvoir. Et puis le cinéma, ce sont aussi des images, bien sûr.
Oui.
Lettres à Franco, c'est un film un peu trop classique parfois, mais la photographie est vraiment magnifique. Amenabar a travaillé avec un chef opérateur qui s'appelle Alex Catalan, ça ne s'invente pas. On lui doit notamment un autre très beau film espagnol, La Isla Mínima. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille.
Moi
tout
aussi.
Comme je vous conseille donc ce Lettres à Franco.
Lettres à Franco donc d'Alejandro Amenabar qui sort mercredi prochain au cinéma. Merci Margot.
Merci Rémi.
Les Carnets du Monde continuent dans un instant. Nous serons en Argentine, un pays où le rugby doit faire sa révolution. Là-bas, ce sport est accusé de promouvoir la violence et le machisme avec des conséquences parfois dramatiques.
Europe 1, 13h, 14h, Les Carnets du Monde.
Europe 1, Les Carnets du Monde.
Chaque dimanche de 13h à 14h, écoutez Le Monde changer avec les reporters et correspondants d'Europe 1. On feuillette Les Carnets du Monde avec Rémi Botsaron cette semaine. Et il est maintenant 13h31, nous allons parler de rugby. Mais il ne sera pas question du tournoi des Six Nations qui a lieu en ce moment. On prend la direction de l'Argentine.
On va parler du rugby argentin, mais on ne va pas vraiment parler de sport. On va parler de la société argentine qui dénonce aujourd'hui les valeurs inculquées là-bas par le rugby, des valeurs qui peuvent s'avérer destructrices. Il y a un mois, un jeune homme a été tué par un groupe de rugbyman. Ils l'ont roué de coups à la sortie d'une boîte de nuit. Un crime qui, pour beaucoup, révèle la violence, le virilisme inhérent à ce sport tel qu'il est pratiqué en Argentine. Et on va tout de suite retrouver sur place notre correspondante Aude Villiers-Moriamé. Bonjour Aude.
Bonjour Rémi.
Alors, avant d'entendre ceux qui tentent aujourd'hui de faire évoluer le rugby argentin, commençons par un rappel des faits. Il y a un mois, donc, un jeune homme, prénommé Fernando, a été tué par un groupe de rugbymen.
Oui, ce groupe de rugbymen se trouvait en fait en vacances à Villa Gesell, une station balnéaire de la côte atlantique, tout comme Fernando, originaire de Buenos Aires, qui passait là l'été austral avec des amis. Les deux groupes se sont retrouvés dans la même boîte de nuit, dans la soirée du 17 janvier, et c'est là qu'une bagarre aurait éclaté entre eux. Les rugbymen, déjà agressifs à l'intérieur de la boîte, sont expulsés par la sécurité. Ils retrouvent dehors Fernando, qui est seul à ce moment-là, et se mettent à le frapper très violemment. Le jeune étudiant en droit meurt juste après son arrivée à l'hôpital. Depuis, donc, 10 personnes au total ont été mises en examen. Ce sont tous de très jeunes hommes, ils ont entre 18 et 20 ans, et ils faisaient partie du même club de rugby de Zarate, une ville de la province de Buenos Aires. 9 de ces accusés ont été formellement reconnus par des témoins. La police a aussi retrouvé des images de vidéosurveillance qui ont permis de les identifier. Cette affaire a énormément ému la société argentine. Ici, les médias font chaque jour le point sur l'enquête judiciaire. Le procès des accusés pourrait d'ailleurs s'ouvrir dès cette année.
Et tout cela met donc en lumière un sérieux problème de violence dans le milieu du rugby argentin.
Oui, parce que cette affaire en a fait ressurgir d'autres. Ces dernières années, il y a eu plusieurs cas d'agressions violentes commises déjà par des joueurs de rugby, souvent à plusieurs contre un. Et il y a déjà eu un décès de ce type dans le passé, un jeune Argentin battu à mort par des rugbymen, argentin également, sur une plage au Brésil. Des groupes de joueurs ont aussi été accusés de viols collectifs ces dernières années, sans que cela débouche sur des condamnations pour autant. Ce qui ressort de ces affaires, en fait, c'est le grand sentiment d'impunité qui règne chez ces joueurs, qui sont souvent issus de classes sociales aisées. En Argentine, le rugby est vu comme un sport d'élite, surtout jouée par des hommes blancs, riches, hétérosexuels. Et dans certains clubs, la violence machiste semble être tout à fait tolérée, voire valorisée.
Et pourtant, Aude, certains clubs veulent montrer qu'il est possible de faire du rugby autrement.
Et oui, c'est le cas de Ciervos Pampas, les cerfs de la Pampa, littéralement. Il s'agit d'une association de défense des droits de la communauté LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, trans, qui existe depuis bientôt 7 ans et qui cherche à promouvoir un rugby respectueux, loin, très loin, notamment de la violence homophobe et du mépris de classe.
Et vous avez assisté à l'un des entraînements de ce club cette semaine. On vous suit sur le terrain.
Reconnaissables à leurs chaussettes arc-en-ciel, les joueurs de Ciervos Pampas se retrouvent deux fois par semaine au parc Avellaneda, dans le sud de Buenos Aires. Leur entraînement, qui dure 2 heures, inclut des exercices très physiques d'échauffement, de la course à pied et des moments de jeu.
Le sport est un bel espace d'accompagnement, de socialisation auquel beaucoup d'entre nous n'avons pas eu accès pendant notre adolescence, à cause de l'homophobie.
Caio Varela est le président de Ciervos Pampas, association qu'il a cofondée avec plusieurs amis membres de la communauté LGBT qui voulaient jouer au rugby dans un espace bienveillant.
No es una competencia, cada uno lo hace a su velocidad.
Ouverte à tous et à toutes, l'association compte aujourd'hui 35 membres permanents. Parmi eux, Luis Bustos, qui s'est inscrit au club l'an dernier. Cet Argentin de 27 ans, futur professeur de mathématiques, pratiquait déjà le rugby depuis plusieurs années. Avant de rejoindre Ciervos Pampas, il a joué pendant 2 ans dans un autre club de la capitale.
Je suis ouvertement homosexuel. Les autres joueurs, ils ne l'acceptaient pas. Ils me regardaient bizarrement. Je ne m'intégrais pas, ils ne voulaient pas que je m'intègre. On se disait bonjour et puis c'est tout. Jamais j'ai pu former ce lien qui est ce dont on a besoin dans le rugby. Tout l'apprentissage se faisait de manière violente, à travers les coups, à travers les cris. Moi, par exemple, ils m'envoyaient casser les jambes durant les matchs. Ils disaient, le seul truc que tu dois faire, c'est casser les jambes. Alors qu'ici, on apprend une technique, une façon de se déplacer, de bouger son corps, une manière de jouer en fait, parce que ce qu'on fait, c'est jouer.
Caio, le président de Ciervos Pampas, a lui aussi été témoin de la violence machiste qui peut s'exercer dans d'autres clubs.
Dans les tournois auxquels nous avons participé, nous avons vu des choses extrêmement violentes. Comme par exemple, des joueurs qui frappaient le dos nu d'un nouveau. Et vraiment, tous les joueurs le frappaient de toute leur force. Qu'est-ce que ça a à voir avec les valeurs du rugby ? Rien. C'est vraiment de la manipulation machiste. Celui qui se sent supérieur frappe celui qui est considéré comme inférieur. Le plus grand frappe le plus petit. Le patriarcat. Nous rejetons complètement ces valeurs. Nous, on serre dans nos bras celui qui joue pour la première fois.
Nous abraçons.
Après le meurtre de Fernando Baissosa, mi-janvier, le club a publié un communiqué sur les réseaux sociaux. Un texte dans lequel les joueurs estiment que cette culture de la violence n'est pas obligatoirement inhérente au rugby, mais à la société argentine en général, où règne le patriarcat, l'homophobie, le mépris de classe et le racisme. Dans ce communiqué, Ciervos Pampas défend les valeurs originelles du rugby, l'intégrité, la solidarité, la discipline, le respect et la passion, et propose d'en ajouter une autre, la diversité. Leur message a été très relayé sur les réseaux sociaux et a attiré l'attention des médias argentins. Depuis le début du mois, près de 25 nouveaux joueurs potentiels se sont présentés aux entraînements. C'est le cas d'Alessio Manfrin Medina, 22 ans.
Dans la vie, il faut toujours essayer de nouvelles choses. On a souvent des idées reçues sur certains sports, en pensant que c'est très masculin ou très féminin. Moi, j'ai décidé d'en finir avec ce schéma de pensée. Alors, j'ai contacté ce club, j'ai essayé un cours et je me suis senti vraiment capable de jouer ici. J'ai fait tomber une barrière grâce à Ciervos Pampas. J'ai découvert quelque chose de très important pour moi. Ici, on te prévient régulièrement. On te dit que l'idée, c'est de s'amuser. On te dit si tu viens pour être violent, pour insulter les gens, pour faire du mal à un autre, tu t'en vas. Le club te prévient que si tu te convertis en une personne toxique, tu dois partir.
Caio, qui observe le déroulé de l'entraînement sur le bord de la pelouse, voit d'un très bon œil l'arrivée de tant de nouvelles recrues.
Je crois que les gens ont compris qu'on n'est pas seulement un club de rugby destiné à la communauté LGBT. Ils ont compris qu'on fait un travail politique pour redéfinir des valeurs, des postures, des identités. Nous voulons construire notre rugby, nos valeurs, nos postures, notre approche au corps, Sinon, nous serions dans n'importe quel autre club.
En plus du rugby, Cerros Pampas a également créé une école des droits de l'homme qui se réunit une fois par semaine. C'est un espace de réflexion sur la diversité sexuelle dans le sport et la lutte contre les discriminations. Le club organise également une fois par an une rencontre sportive entre plusieurs clubs, qu'ils soient LGBT ou non. Appelée Tacler l'homophobie, cette rencontre a rassemblé 18 équipes argentines de rugby l'an dernier. À Buenos Aires, Aude Vigné-Moriamé pour Europe 1.
Aude qui est toujours avec nous en ligne depuis l'Argentine. Aude, il y a donc un club, ce club qui est déjà très engagé contre la violence machiste. Est-ce que d'autres le suivent dans cette voie ?
Alors oui, ça commence à bouger. La Fédération Argentine de Rugby, l'UAR, va par exemple mettre en place des formations sur la violence et créer une commission spéciale sur le sujet. Certains clubs ont aussi pris des mesures à leur échelle, notamment en interdisant la consommation d'alcool lors des troisièmes mi-temps. Au niveau politique, une loi Fernando, du nom du jeune homme tué à Villarreal en janvier, a été proposée par des parlementaires issus de divers partis. C'est un texte qui propose de durcir les sanctions pour les clubs de la capitale et de la province de Buenos Aires, clubs dont les joueurs se comporteraient de manière violente. Violente en dehors du cadre sportif.
À suivre donc cette évolution ou révolution dans le rugby argentin. Merci Aude et à bientôt.
Merci Rémi, à bientôt.
Et à suivre dans les carnets du monde, des mots d'amour comme s'il en pleuvait vraiment parce qu'ils sont partout dans les rues, sur les murs, sur les trottoirs. Ça se passe dans le sud de l'Italie.
Europe 1, les carnets du monde.
Cela ne vous a sans doute pas échappé, il y a deux jours, c'était la Saint-Valentin, et c'est l'occasion pour les Carnets du Monde de parler d'amour, Rémi Botsaron.
Et on va partir très loin de l'exploitation commerciale qui est faite de la Saint-Valentin, très loin aussi de l'obligation d'exprimer son amour précisément ce jour-là. L'amour peut s'exprimer tout le temps, il peut s'exprimer partout et pourquoi pas dans la rue, par écrit. C'est la tradition que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans le sud de l'Italie. On va appeler ça les graffitis amoureux, des mots d'amour exposés aux yeux de tous. On peut les trouver sur un mur, sur la route, sur un panneau, sur une statue, partout, dans toutes les villes. C'est à Palerme que Cécile Debarge les a repérés.
À l'ombre des grands arbres de la place Tredici Vittime, à Palerme, Giacomo ponce un vieux banc en verre Decati avant de lui donner un coup de pinceau. Ce trentenaire fait partie de Retake, une association qui nettoie et valorise les espaces publics de la ville en traquant déchets, saletés et surtout graffitis, dont une bonne partie sont des mots d'amour.
On les trouve dans n'importe quel lieu public, mais aussi par terre, sur le bitume. Surtout quand c'est le cas d'une déclaration d'amour de la part d'un prétendant. On en trouve aussi sur les arbres, soit ce sont des incisions, soit carrément des graffitis sur l'écorce des arbres.
À quelques mètres de là, les colonnes de marbre du parc de la Villa Giulia ont été recouvertes d'une date et des deux prénoms d'un couple, successivement effacés d'une grosse couche de peinture noire, sûrement après la rupture, imagine Giacomo.
C'était sûrement la date à laquelle ils s'étaient mis ensemble ou bien la date du jour précis où ils étaient là-bas, allez savoir. Ce graffiti avait été recouvert d'une peinture noire hyper épaisse et d'ailleurs ça avait été vraiment difficile de le nettoyer, sauf qu'une fois qu'on a fini, on a fait ressortir le premier graffiti amoureux.
L'amour indélébile a ses désavantages, s'amuse Giacomo.
On a imaginé la tête de ces deux-là qui repasseraient par cet endroit, qu'ils verraient, se rappelleraient de l'époque où ils étaient heureux, mais surtout se demanderaient qui avait bien pu faire ça, qui avait bien pu faire ressortir ce graffiti que l'un des deux voulait effacer à tout prix.
Car lorsqu'on clame son amour haut et fort, on doit souvent faire la même chose lorsque l'histoire prend fin. Maura, 18 ans, le voit souvent sur les murs de son lycée.
Quand tu es amoureux, c'est un moment où tu es complètement transporté par tes sentiments. Et tu serais prêt à faire tout et n'importe quoi. Tu ressens ce besoin de faire quelque chose, d'écrire sur ce mur qui appartient à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut le voir et c'est un message fort qui s'adresse à tous.
À tout le monde, autant à la personne aimée qu'aux voisins et aux amis, une habitude qu'on retrouve dans les quartiers les plus populaires de la ville comme à Piazza Maggiore où un petit groupe d'adolescents tue le temps assis sur les murets qui entourent un jardin mal entretenu. Parmi eux, Teresa, 15 ans, un graffiti à son actif.
Moi j'en ai fait un pour une copine, pour lui souhaiter son anniversaire. C'est venu comme ça, du cœur, c'est sorti tout seul. Ça lui a tellement plu qu'elle en veut un autre.
La plupart du temps, les messages de ces graffitis amoureux sont bien plus poétiques que de simples « je t'aime » ou des citations trouvées sur Internet.
T'es entré dans mon cœur comme un pénalty. Ou bien des poésies, genre stylo bleu, stylo rouge, mon amour. Je sais pas en fait, un truc du genre.
Pour l'anniversaire de Teresa, son petit copain a peint sous son balcon « Bon anniversaire princesse ».
Je me suis penchée et j'ai vu ce graffiti. Et ça m'a plu. Je m'y attendais pas, c'était une super belle surprise.
Assis à côté de Teresa, Francesco, 15 ans aussi, a reçu plusieurs graffitis de ses ex-petites copines. Lui n'en a jamais fait, pas assez amoureux, reconnaît-il, même si les garçons s'y adonnent autant que les filles.
J'ai vu des mecs en faire parce qu'ils tiennent à leur copine.
Pour Teresa et Francesco, le graffiti, c'est la preuve d'amour ultime.
Pour moi, c'est mieux un graffiti, parce qu'un cadeau, tu peux le jeter. Mais un graffiti, chaque fois que tu passes devant, même sans y penser, tu le vois.
Le graffiti survit au temps, surtout. Au 1er siècle après Jésus-Christ, déjà les hommes et les femmes gravaient au stylet leurs sentiments amoureux. À 700 km de Palerme, plus au nord, on les a retrouvés partout sur les murs de la cité antique de Pompéi. Près de 2000 ans plus tard, on retrouve les mêmes phrases, les mêmes mots d'amour sur les murs de Naples.
Ce qu'on essaiera de faire aujourd'hui avec notre visite au Musée archéologique national de Naples, c'est de se replonger dans le monde des anciens et dans leur rapport à l'amour, à travers l'histoire des habitants de Pompéi et du monde antique en général.
Pasquale Licardo est guide et archéologue. Il a déchiffré patiemment toutes ces phrases en latin, parfois obscènes, parfois plus tendres ou philosophiques, comme celle exposée face à lui.
Viva qui ama.
Celui qui aime vit. Celui qui ne sait pas aimer meurt. Et celui qui interdit l'amour meurt deux fois. Disons qu'avec cet exemple, on revient à l'amour au sens le plus platonique. Parce que ce n'est pas forcément une histoire de pulsion ou de sexualité, mais du véritable amour. Dans la mentalité des Romains, l'amour n'est pas honteux.
La sexualité non plus ne l'est pas pour les Romains, explique Pasquale Licardo, c'est aussi naturel de faire l'amour que de manger. Sur le mur de l'une des villas de Pompéi, la maison de Sallust, un graffiti a immortalisé le nombre de conquêtes d'habitants de l'époque.
On parle de ces deux hommes qui s'appellent Éphébé et Crisippo et qui se vantent tous les deux de s'être accouplés chacun avec trois femmes dans cette maison en une seule nuit. On comprend que la sexualité des Romains est très liée pour eux à la virilité de l'homme et à l'homme conquérant.
Aux côtés des mots d'amour ou des commentaires sur leurs ébats, les Pompéiens se vantaient de victoires militaires, de campagnes politiques. Tout ce qui, à l'époque, façonnait leur personnage social et leur prestige au sein de la société, l'amour y avait une place de choix. Cécile Debarge, de Palerme à Naples, Europe 1.
Cécile Debarge qui nous a donc fait découvrir ces graffitis amoureux et qui est avec nous à Paris aujourd'hui. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Cécile, ça fait maintenant 5 ans que vous collectionnez des photos de ces graffitis. Vous en possédez plus de 200, je crois.
Oui, c'est ça, 235.
Donc vous avez vraiment une vision d'ensemble. En résumé, qu'est-ce qu'ils expriment ?
Ils expriment tout un tas de choses. On a toute la palette du sentiment amoureux. On a l'amour fou, l'amour trahi, l'amour impossible. C'est d'une créativité infinie. J'en ai pas deux. Qui soit identique. Et c'est ça qui m'a tout de suite marqué. C'est pas des messages copier-coller, c'est celui qui écrit le message qui met ses tripes sur la table. Mmh. Et par exemple, à Nichemi, qui est une ville moyenne dans le sud de la Sicile, un graffiti disait, je cite, « Seul un amour impossible peut être éternel. » C'est l'illustration parfaite de la part de drames, de passions qui vont souvent de pair avec le sentiment amoureux, ou tout au moins dans cette partie de l'Italie. On a aussi celui qui a été trompé, qui veut humilier son ancien conjoint sur les murs de la ville. Je l'ai vu une fois, c'était sur le mur d'un cimetière, toujours en Sicile. Et puis, l'un des graffitis qui devient un grand classique, c'est la demande en mariage. J'en ai photographié plusieurs. L'un d'entre eux disait « Tu seras toujours dans mes pensées, je t'aime, veux-tu m'épouser ?» Ça, c'était à Acitrezza, qui est un port de pêche au sud de Catane, donc c'était sur les murs du port. C'est ça que j'aime, c'est qu'on ne connaît jamais la fin de l'histoire.
Et on ne sait jamais non plus qui a fait ce graffiti, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça peut être les deux. On a bien entendu ce que disaient les adolescents Francesco et Teresa dans votre reportage.
Ouais, exactement. C'est assez marrant d'ailleurs parce que quand je les ai rencontrés, Teresa demande à Francesco, son ami, s'il a déjà fait des graffitis amoureux. Et il répond assez nonchalant, l'adolescent, que lui n'est pas du genre à en dessiner mais plutôt à en recevoir. Ouais. Donc en réalité, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est courtisé plus qu'il ne courtise, ce qui est l'opposé complètement du cliché qu'on peut avoir sur un certain type de séduction à l'italienne où la femme attendrait que l'homme lui manifeste son intérêt sans rien faire. Et c'est d'ailleurs pas du tout quelque chose de nouveau. Au musée archéologique de Pompéi, plusieurs graffitis ont été réalisés par des femmes. Il ne faut pas croire que c'était forcément tarte à la crème ou romantique. Je vous donne un exemple. L'une de ces femmes s'appelle Virgola, puisqu'elle a signé de son prénom. Elle s'adresse à Tertio, son amant, et elle lui dit « In de chance, es, donc en latin, tu es indécent, en référence sûrement à sa fougue ou son appétit sexuel. C'était en 79, pardon, après Jésus-Christ.
Oui, donc c'est vraiment l'intimité là qu'on expose comme ça sur les murs, au-delà des sentiments. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer en France.
Ben oui, il faut s'imaginer qu'on parle d'endroits où on vit différemment l'espace public. Les gens vivent dans la rue, ils se retrouvent dehors. C'est évidemment une question de météo, mais ça structure surtout différemment la société. Si on prend l'exemple des graffitis écrits sur les trottoirs, en réalité, c'est pour qu'ils soient vus du balcon ou des fenêtres, exactement quand il y a des dizaines, voire des centaines d'années, les hommes chantaient la sérénade sous le balcon des femmes. Et de fait, ils faisaient participer absolument tout le monde. C'est comme si, d'une certaine manière, pour avoir encore plus de force et d'intensité, le sentiment amoureux devait être exposé aux yeux de tout le monde.
Ouais, et alors, quand ce sentiment disparaît, il faut aussi que tout le monde le sache, visiblement, puisqu'au début de votre reportage, il y a ce graffiti recouvert de peinture noire. Et en fait, c'est sans doute parce que le couple s'était séparé. Ça veut dire qu'on s'aime en public, mais on se sépare aussi en public.
Ouais, c'est ça. J'ai rencontré une anthropologue qui m'a raconté cette anecdote un peu irréelle et pourtant c'était il y a plusieurs dizaines d'années dans certains villages siciliens. Et pour se séparer, les habitants du village traçaient une ligne sur le sol, une ligne rouge qui partait de la maison du mari jusqu'à celle de la famille de l'épouse. Tous les proches de l'un et l'autre pouvaient écrire en fait de part et d'autre la ligne des reproches. Ça semble impossible pour nous, mais cet anthropologue me disait la phrase suivante. Ce qui nous caractérise, ce sont les relations qu'on a aux autres. Donc quand quelqu'un part de votre vie, il va falloir redéfinir notre propre identité pour la faire renaître différemment.
Eh bien, on va réfléchir à cela. Merci Cécile Debarge pour cette découverte des graffitis amoureux, de cette expression de l'amour en public. Et donc bon retour à Palerme. À bientôt.
À bientôt, merci.
Europe 1, les carnets du monde.
Et avant de refermer les carnets du monde, Rémi Bossaron, on prend la route de l'Autistan, rejoindre Joseph Chovanec.
Joseph qui est avec nous, comme chaque semaine, philosophe et autiste Asperger, avec un regard particulier sur le monde et un regard un peu perdu parfois. Bonjour Joseph.
Bonjour Rémi, bonjour à tout le monde.
Alors, je dis que vous avez parfois un regard un peu perdu, mais en fait c'est vous qui le dites. C'est ce que vous ressentez parfois quand vous voyagez.
Oui Rémi, c'est comme ça que je me sens, un peu comme rat en plan. Je peux passer une éternité à chercher quelque chose alors que c'est sous mon nez. C'est pour ça que j'aime beaucoup rat en plan. Le handicap partagé crée des liens. Et pendant mes voyages, j'ai souvent erré. C'est comme ça que je découvre les villes nouvelles. Comme je cherche désespérément par exemple un musée qui est pourtant littéralement devant moi. Et dans ce cas, la Google Maps n'aide pas. Je finis par faire des kilomètres à pied et donc d'en apprendre beaucoup. Plus d'une fois, je me suis senti idiot. Par exemple, à Cologne, en cherchant la cathédrale.
Ah oui, alors je la connais, cette cathédrale. C'est difficile de la manquer. Hein.
Oui, toute la ville de Cologne est bâtie autour d'elle et la cathédrale domine la ville. L'ennui, c'est qu'il est impossible de demander aux gens où se trouve la cathédrale ou comment on y va. On ne vous prendrait pas au sérieux, on croirait à un sketch. Je n'oublierai jamais le fou rire d'un habitant du Caire en Égypte à qui j'avais demandé un jour où se trouvait la forteresse, la Kala. En principe, elle est visible de partout, mais l'habitant avait peut-être trouvé drôle que je sache lui poser la question en arabe mais que je ne sache pas la voir.
Oui, on imagine que ça ne doit pas arriver souvent, en effet. Mais quand vous vous perdez comme ça, en fait, pour vous, c'est une chance.
Bah, quand on fait des kilomètres, souvent d'ailleurs avec la panique au ventre de ceux qui se sentent perdus, hein, on a la chance de remarquer mille et un détails. Des détails que des touristes plus efficaces, entre guillemets, ne voient pas. Hein. Et surtout, on rencontre des gens qui, eux, savent trouver et parfois acceptent de vous guider. Ouais. L'une de mes premières leçons magistrales en la matière m'avait été donnée dans une forêt profonde aux Antilles par un ami d'origine guyanaise. Pour ma part, je ne voyais que des feuilles vertes à l'infini. Mais mon ami énumérait les noms des fruits qu'il voyait et me les montrait l'un après l'autre. Parfois, ce n'est pas une simple distraction, une curiosité artistique. Hein. Par exemple, il y a 2 ans, je cheminais avec quelques autres personnes aux îles Svalbard. Alors, c'est tout à fait au nord de la Norvège. Hein. J'avais été bien content que les autres me fassent remarquer qu'il y avait 2 ours polaires, une mère et son petit, à peut-être 100 mètres, voire un peu moins. Sans cela, j'aurais pu leur rentrer dedans sans le vouloir. Un peu comme dans les dessins animés.
Oui, mais ça peut être dangereux. Hein, dans la vraie vie, il faut éviter. Votre dernière grande découverte, c'était il y a à peine un mois, je crois.
Oui, au mois de janvier dernier, j'étais avec l'un de mes professeurs d'arabe, hein, éminent érudit omanais avec sa tenue traditionnelle. Et il a exaucé l'un de mes rêves, me faire visiter un site historique à une vingtaine de kilomètres du village où je séjourne parfois en hiver. Un endroit qui ne figure pas vraiment sur les cartes, mais où on peut voir de nombreuses ruines de maisons anciennes. Mon professeur était resté dans la voiture et téléphoné à quelqu'un, et pendant ce temps-là, je me suis promené sur les ruines en cherchant désespérément des objets historiques au hasard, des pièces de monnaie, en vain. Un moment après, le professeur sort à son tour de la voiture et en un clin d'œil, ses mains étaient pleines de pièces de monnaie anciennes qu'il me commentait avec un naturel parfait. Il m'a aussi montré d'autres objets tels qu'un bâton à rôle qui remontait à plusieurs siècles en arrière.
Ouais, ça doit être un petit peu rageant, ça.
Oui, je l'avoue, j'étais jaloux. Hein. Il y a décidément des choses qui m'échapperont toujours. Mais faut-il tout avoir ? Un dicton arabe plein de sagesse s'énonce ainsi. « Iza urifa as-sababu battala al-ajabu » Si la cause était connue, hein, disparaîtrait l'émerveillement. Hein. En tout cas, ce qui est certain, si je ne trouve pas de richesse ni de monnaie précieuse, je rencontre des gens hors du commun dans mes errances. Il s'agit sans doute là du plus précieux de trésors. Et Rantanplan finalement était sans doute beaucoup plus doué qu'il n'y paraît.
En tout cas, il était aventureux comme vous. Merci de nous avoir encore une fois fait partager vos aventures, Joseph. À bientôt.
À très bientôt, Ilalika.